Enquête, instruction, tribunaux, condamnation. L'industrie du médicament devant ses juges. Bienvenue dans le podcast consacré aux grandes affaires de l'industrie pharmaceutique. Bienvenue dans Pharma Affairs.
Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de Pharma Affairs. Dans ce nouveau podcast, nous abordons un dossier très douloureux pour de nombreuses familles et mettons en cause le numéro 1 français, le laboratoire Sanofi. Nous allons en effet parler de la dépakine. À mes côtés, comme d'habitude, maître Christophe Hénin, avocat au barreau de Paris. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et le docteur Martine Pérez, journaliste médical. Bonjour Martine.
Bonjour Jean-Yves.
Et nous avons un invité exceptionnel pour ce nouvel épisode, le sénateur Christian Klinger, auteur d'un rapport budgétaire sur le dispositif d'indemnisation pour les victimes de la dépakine. Bonjour monsieur le sénateur.
Bonjour.
Le 2 mai 2017, l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, l'APESAC, intente une action de groupe contre le laboratoire Sanofi-Aventis, devenu aujourd'hui Sanofi. Au cœur de cette assignation, le valproate de sodium, principe actif de la dépakine, à l'origine de malformations chez plus de 2000 à 4100 enfants et de troubles de neurodéveloppementaux chez 16 600 à 30 400 enfants. Vous voyez, nous sommes dans des proportions très très importantes. On estime qu'environ 14 300 femmes ont pris du valproate de sodium durant leur grossesse entre 2007 et 2014. Docteur Martine Pérez, pouvez-vous nous rappeler les faits? Qu'est-ce que la dépakine? Quels sont les effets? Et pourquoi cela a entraîné toutes ces malformations?
Alors, la dépakine, c'est un médicament qui a été mis sur le marché à la fin des années 60. C'est un médicament qui est destiné aux personnes souffrant d'épilepsie et c'est un médicament extrêmement efficace. On a commencé à le prescrire assez largement, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Et puis, au début des années 80, il y a des médecins, notamment un médecin français qui s'appelle Elisabeth Robert, qui a mis en évidence le fait que quand les mamans prennent de cette fameuse dépakine en début de grossesse, il y a un risque accru de malformation pour le bébé, un risque accru de spina bifida. Et c'est une malformation du tube neural, c'est-à-dire de la colonne vertébrale, qui peut entraîner des handicaps très graves. On a calculé d'ailleurs assez rapidement après que 10% des enfants dont les mères avaient pris ce médicament en début de grossesse parce qu'elles étaient épileptiques souffraient d'un tel syndrome. Et ça a été confirmé ensuite dans beaucoup, beaucoup de pays européens. Alors, si vous me permettez, je vais faire une anecdote, parce qu'il me tient à cœur d'ailleurs, puisque en 1986, j'étais médecin, j'avais des consultations libérales et je suis même gynécologue de formation. Et je vois une jeune femme épileptique, enfin, qui me dit qu'elle est épileptique, qu'elle prend de la dépakine et qu'elle vient de découvrir qu'elle est enceinte. Et elle me demande quoi faire. J'appelle immédiatement un centre qui s'appelle le centre de référence des agents tératogènes, qui répond à tous les médecins. Je lui demande, est-ce que la dépakine pose un problème aux femmes enceintes? On me répond immédiatement en 1986, oui, il ne faut pas prendre ce médicament au début de grossesse, il y a un risque malformatif important, et donc elle doit immédiatement revoir son neurologue. J'appelle le neurologue, j'organise le rendez-vous. Mais vous savez, c'était peut-être déjà un peu tard, parce qu'en fait, les études ont montré que la dépakine, quand elle est prise dans les premières semaines de grossesse, elle a déjà un effet malformatif. Et donc, à partir de ce moment-là, les recommandations faites aux médecins, en particulier prescripteurs, c'est de dire il ne faut pas prescrire la dépakine pendant les 3 premiers mois de la grossesse. J'imagine que cette recommandation a été à peu près suivie. Mais il n'empêche, et on en reparlera quand même, qu'il y a 2 manières d'informer les médecins et les patients sur les effets secondaires des médicaments. Il y a d'abord le RCP, c'est les recommandations aux prescripteurs qu'on trouve sur le site de la HAS. Et très clairement, ces RCP pour la dépakine, dès 1986, explique que ce médicament est contre-indiqué chez la femme enceinte et qu'il y a un risque accru de malformation. En revanche, dans le notice du médicament destiné aux femmes, la seule chose que l'on peut lire en 1986, c'est « prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ». Ce n'est pas tout à fait la même chose.
On va reprendre l'histoire après. Mais déjà, on a bien vu le sujet, c'est-à-dire qu'en fait, on a un médicament qui est prévu dans le cadre de l'épilepsie, et on s'aperçoit qu'il y a des effets secondaires donc chez les femmes enceintes. Et puis donc tout cela va entraîner des actions judiciaires, puisqu'effectivement, quand les troubles vont arriver, il y aura des actions qui vont vont être intentées. Et cette affaire, effectivement, sur le plan juridique, va être assez innovante à deux niveaux. D'une part, on va voir pour la première fois une class action se mettre en action. C'est Maître Christophe Hénin nous expliquera ce que c'est cette class action. Et deuxièmement, on a un fonds d'indemnisation qui va être mis en place pour les victimes. C'est le 28 septembre. Et ce fonds d'indemnisation, en fait, est censé, je dirais, indemniser toutes ces victimes en évitant des procès, des procédures très très longues. Cependant, comme va nous l'expliquer Christian Klinger, qui est donc l'auteur d'un rapport budgétaire sur ce dispositif d'indemnisation, ce rapport rendu en septembre 2022 montre en fait que cette procédure ne marche pas. Il nous expliquera pourquoi. Alors, le fait singulier dans ce dossier, c'est que tout le monde est d'accord sur la dangerosité de la dépakine pour les femmes enceintes. Ces malformations ne sont contestées par aucun des acteurs. Et comme vous venez de le dire, Martine, la controverse porte en réalité sur la question de savoir si les professionnels de santé et les femmes enceintes ont été suffisamment informés des risques encourus par la prise de ce médicament.
C'est bien ça le sujet. Alors là, j'ai commencé dans les années 70-80 où on découvre les malformations du tube neural. La deuxième période se passe au début des années 2000, parce que c'est au début des années 2000 qu'on se rend compte que non seulement les femmes enceintes qui prennent de la dépakine ont ce risque malformatif quand elles le prennent au premier trimestre, mais on découvre, il y a beaucoup d'études en France et partout dans le monde, qui montrent que même pris au deuxième ou au troisième trimestre de la grossesse, cette dépakine provoque aussi d'autres troubles assez différents, des troubles du neurodéveloppement, des formes d'autisme, des baisses de quotient intellectuel, des troubles d'acquisition de la parole, donc des troubles plus subtils à mettre en œuvre, mais qui existent réellement. Et ça se commence dans les années 2000, et c'est d'ailleurs ça qui a lancé la procédure judiciaire.
Qui a lancé cette procédure de class action. Alors, bon, chacun va camper sur ses positions. Pour les autorités de santé, elles disent qu'elles ont fait leur travail d'information. Le laboratoire Sanofi dit, lui, avoir informé très tôt ces mêmes autorités. Alors, c'est ce qu'expliquait son directeur médical, qui était interrogé dans l'émission Envoyé spécial. On va l'écouter tout de suite.
Moi, ce que je veux, c'est la vérité et la réalité des faits. Le Sanofi que je représente aujourd'hui a toujours été dans une démarche proactive et n'a jamais, jamais rien caché.
Côté victime, on renvoie dos à dos le laboratoire et les autorités de santé. En 2011, donc, Marine Martin, qui est victime de cette dépakine, va créer une association, donc l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsion, l'APESAC, pour demander réparation. Voilà ce qu'elle expliquait à cette époque.
Un laboratoire pharmaceutique dans le collimateur de la justice. Une famille a décidé de porter plainte contre X. D'autres devraient suivre dans les prochains jours. En cause, un médicament bien connu des personnes qui souffrent d'épilepsie, Aurélia Chopin.
Le fils de Marine Martin, Nathan, est atteint de troubles du langage et de malformations physiques comme sa sœur aînée. Pendant ces deux grossesses, cette mère de famille a continué de prendre son traitement contre l'épilepsie. Et c'est par hasard, il y a quelques années, qu'elle fait le lien entre les problèmes de ses enfants et le dépakine.
Je me suis révoltée, j'ai dit non, c'est pas possible, d'autres enfants vont naître avec ce traitement et personne ne dit rien, personne ne bouge, il faut que je fasse quelque chose.
Depuis, elle a créé une association et rassemblé près de 300 familles qui racontent toute la même histoire. Le dépakine est un traitement efficace contre l'épilepsie. Mais dès 1982, des scientifiques mettent en garde sur les risques pour le fœtus de sa molécule, le valproate de sodium. Ce que dénoncent Marine Martin et son avocat, c'est la mauvaise information des patientes.
Des femmes enceintes sont sous dépakine et des enfants sont exposés à un risque extrêmement grave. Et on sait aujourd'hui que les risques sont graves. L'objectif de la plainte, c'est qu'une enquête puisse être diligentée par des juges d'instruction pour mettre à jour les différentes défaillances qui ont permis cette situation. Que ce soit les défaillances des producteurs, que ce soit les défaillances des autorités sanitaires.
Et elle se lance donc dans une grande première qui est une action de groupe contre le laboratoire Sanofi. Alors cette action a été déclarée recevable en janvier 2022. Christophe Hénin, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que cette action de groupe? Pourquoi cette action a été importante et la portée de la décision qui a été prise à cette époque?
Je vais essayer de pas être trop technique pour nos auditeurs. En réalité, l'action de groupe est une action qui est récente, hein, d'un point de vue juridique, puisque c'est une loi du 26 janvier 2016 qui a amené la possibilité de cette action de groupe, mais avec des conditions extrêmement extrêmement strictes pour leur recevabilité. Alors c'est vrai, vous l'avez dit Jean-Yves, l'APESAC est la première association ayant réussi à passer des barrières de recevabilité pour cette action de groupe en présentant 14 cas à l'époque. Et cette décision dont vous parlez du 5 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Paris permet un regroupement de toutes les plaintes pendant 5 ans à compter de sa décision. Je dirais néanmoins que le laboratoire Sanofi a fait appel de cette décision qui est toujours en cours. Il n'en demeure pas moins qu'il y a cette recevabilité par rapport à ce que disait Martine sur deux points importants pour le tribunal. C'est pour le tribunal à ce stade, en tout état de cause, sous réserve de l'appel, un défaut de vigilance et un défaut d'information qui aurait été perpétré par le laboratoire, je le dis encore une fois, sous réserve de l'appel à venir.
C'est une première dans le domaine de la santé.
C'est une première dans le domaine de la santé. On voit bien que l'action de groupe, en tout cas, est un échec globalement dans le domaine de la santé, puisque 3 seules actions ont été acceptées pour le moment. Et on verra peut-être tout à l'heure les élargissements qui sont en cours du point de vue législatif.
Parce qu'en fait, les victimes préfèrent aller devant les tribunaux, au civil ou au pénal, parce que les indemnisations sont plus importantes, c'est cela ?
Pas nécessairement. Après, il y a une question de rapidité, de célérité. Il y a plusieurs voies qui s'ouvrent à eux. Les actions conjointes devant les tribunaux judiciaires ou administratifs de façon, j'allais dire, un peu normale. Les recours plus rapides et peut-être moins chers devant les CRCI avec le concours de l'ONIAM. Et puis, cette action de groupe, évidemment, qui prend du temps, comme on en parlera probablement tout à l'heure.
Alors, on le voit bien, la question de l'indemnisation est centrale, puisque tout le monde reconnaît qu'il y a eu un préjudice. Bonjour, Christian Klinger.
Bonjour.
Voilà, donc vous êtes sénateur du Haut-Rhin, vous êtes l'auteur d'un rapport budgétaire sur la Dépakine, sur le dispositif d'indemnisation. Ce dispositif a été mis en place en novembre 2016. Pourriez-vous tout d'abord nous expliquer le mécanisme qui a été mis en place et son originalité ?
Alors effectivement, le dispositif a été créé par une loi de finances de fin 2016 et a été mis en place en 2017. L'organisation initiale du dispositif était composée de 2 instances, un collège d'experts et un comité d'indemnisation. Et très vite, on s'est aperçu que c'était particulièrement complexe et il y avait eu des retards dès l'origine de la création de ce dispositif. Et donc, en conséquence, le dispositif a été réformé par une loi de finances en 2020 et les 2 instances ont été fusionnées en un nouveau collège d'experts unique. Et le traitement d'un dossier Dépakine suit 2 phases. Hein. Une phase d'instruction où le collège d'experts se réunit et se prononce sur l'imputabilité des dommages suite à la prescription du valproate de sodium. Et le cas échéant, il précise évidemment pour chaque préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages imputables. Et ensuite, il y a une phase d'indemnisation où les personnes qui sont désignées responsables doivent proposer une offre d'indemnisation dans le mois qui suit la réception de l'avis du collège d'experts. Donc, si cette personne désignée ne présente pas d'offre ou une offre insuffisante, c'est l'ONIAM qui fait une offre en substitution. Donc, elle verse au bout d'un mois l'indemnisation et elle se retourne contre le responsable dans une seconde phase. Voilà.
Alors, lorsque les victimes font appel à l'ONIAM quand elles entrent dans ce dispositif d'indemnisation, ça veut dire qu'elles abandonnent aussi toutes les autres voies de recours.
Alors, normalement, lorsque l'ONIAM présente une offre en substitution, la victime a le choix entre le fait d'accepter l'offre ou de la refuser. Si la victime accepte l'offre, elle constitue une transaction qui, au sens de l'article 20-44 du Code civil, n'est pas susceptible d'avoir un recours par la suite devant un juge.
D'accord. Combien de personnes ont été éligibles à cette indemnisation ? Combien ont profité, ont fait appel, je dirais, à ce fonds et quels sont les montants moyens qui ont été alloués à ces personnes ?
Alors, jusqu'au milieu de l'année 2022, environ 850 dossiers ont été déposés à l'ONIAM. Et pourtant, il y a entre 2100 et 4100 enfants qui souffriraient de malformations et entre 16600 et 30400 qui connaîtraient des troubles neurodéveloppementaux. Donc, en fait, on est encore très loin du décompte final et des dossiers peuvent encore venir très rapidement. Alors, le montant des offres proposées à ce jour en cumulé par le NIAM était de 38,3 millions d'euros. Donc, ce chiffre peut paraître important, mais bon, ce sont des indemnisations qui sont prévues avec un barème qui est inférieur à celui du référentiel Mornay, qui est utilisé en règle générale dans les juridictions civiles. On sait que ces indemnisations sont en moyenne 25% inférieures à ce que pourrait le montant qui pourrait être obtenu devant les tribunaux, et il pourrait même aller jusqu'à 40% pour les inférieurs, pour les montants, enfin pour les préjudices, on va dire, très importants. Hein. La valeur médiane des offres pour les victimes directes se situe environ entre 80 000 et 100 000 euros.
Alors, dans votre rapport budgétaire, vous êtes assez, je dirais, virulent quand même contre ce fonds d'indemnisation, parce que vous dites honnêtement que ça ne marche pas.
Ça ne fonctionne pas très bien, oui. Ça ne fonctionne pas très bien. Non, en fait, le dispositif était prévu pour être simple d'accès et rapide. Le législateur avait prévu des indemnisations ou du moins une étude du dossier au bout de 6 mois. Très vite, sur la première procédure, on était à 14 mois d'attente sur l'étude d'un dossier. Et on est aujourd'hui à 32 mois d'études et d'indemnisation pour un dossier. C'est aussi complexe d'un point de vue des victimes, puisqu'il faut compléter un dossier qui est important. Il faut retrouver des pièces qui datent de quelques années. En termes de coûts aussi, normalement la voie amiable devait être gratuite, mais finalement ça se révèle souvent faux, puisqu'il faut aussi, les familles ont besoin parfois d'expertise et aussi d'être accompagnées de manière, enfin par un avocat, puisque la procédure amiable s'est un petit peu judiciarisée.
Donc il y a beaucoup de procédures. Une chose que j'essaie de comprendre, c'est que jusqu'à ce jour, c'est l'ONIAM qui indemnise. Sanofi, pour l'instant, n'a pas versé, je dirais, un seul centime aux victimes, parce que les actions sont en cours. Elles contestent les décisions qui ont été prises. C'est bien cela?
Tout à fait, oui. Chaque fois que l'ONIAM se retourne contre Sanofi lance une procédure judiciaire et n'a à ce jour versé aucun centime sur les 34 millions qui sont redevables envers l'ONIAM.
Voilà, j'ai vu dans votre rapport qu'il y avait 240 procédures en cours, c'est ça?
Tout à fait, oui. Donc il y a 240 procédures. Et ce qui empêche un petit peu l'ONIAM de bien fonctionner aussi, puisqu'elle a besoin de ressources humaines pour chercher cet argent auprès de Sanofi.
Christophe, on dit souvent qu'un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. En l'occurrence, là, on a les deux. On a un mauvais procès et on a un mauvais accord, c'est ça?
Alors, je vous laisse seul libre de vos paroles, Jean-Yves. Mais non, je pense que tout dommage, pour autant qu'il soit démontré, en l'occurrence, avec un lien de causalité avec l'ingestion du médicament dont s'agit, mérite réparation si ce dommage est démontré. Comme la défense du laboratoire est tout aussi méritoire dans ce domaine. Alors après, les procédures sont longues, c'est des problèmes budgétaires au niveau du ministère de la Justice, mais elles méritent en tout état de cause d'être tentées. Qu'elles soient tentées en action de groupe, elles sont aussi nombreuses, on l'a dit, devant l'ONIAM, mais tout autant devant les tribunaux civils et les tribunaux administratifs aujourd'hui. Alors c'est vrai, c'est long, les affaires sont en cours, il y a un appel systématique, et donc il faut attendre un peu et être un peu patient, mais ça mérite toujours d'être tenté.
Il faut être très 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 patient. Monsieur Klinger, vous faites des recommandations dans votre rapport. Comment aujourd'hui on pourrait améliorer, je dirais, ce système d'indemnisation?
Alors, dans l'esprit globalement, le travail de l'ONIAM est quand même à soulever. On ne peut pas tout casser du jour au lendemain, parce que sinon ce seront des familles qui seraient un peu démunies face à la complexité du système juridique. Ce qu'il faudrait effectivement, c'est mieux les accompagner, ces familles de victimes, parce que ce sont souvent des personnes qui sont fragilisées physiquement, socialement, et aussi peut-être réformer le système dans le cadre de de la responsabilité du fait des médicaments. Aujourd'hui, les médicaments relèvent de la loi du 19 mai 98, hein, qui est transposée d'une directive européenne et qui dit en quelque sorte que la responsabilité, enfin, qui est relative à la responsabilité des produits défectueux, et ces médicaments relèvent du même régime. Or, un médicament, c'est pas une chaise, une table de cuisine. Et l'affaire de la Dépakine le montre bien. Les médicaments sont des produits pas comme les autres. Ils ont des effets qui peuvent se révéler plusieurs dizaines d'années plus tard. Alors, notre idée, c'est pas de défendre l'imprescriptibilité, évidemment, sinon on risquerait de dissuader la recherche et l'innovation en matière médicale. Il s'agit plutôt de défendre un régime à part pour les médicaments, qui sont des produits qui possèdent un petit peu des risques intrinsèques. D'ailleurs, l'Allemagne a poursuivi ce chemin en excluant les médicaments de l'application de cette directive. Mais là, on sort un petit peu de mon contrôle budgétaire. Et c'est pourquoi je proposais simplement d'engager une réflexion sur ce sujet au niveau européen.
Cette réflexion sur le statut du médicament en matière de responsabilité, Christophe Hénin, vous pensez aussi qu'elle est nécessaire ?
Écoutez, moi je lis le droit et je regarde le droit. La France avait effectivement eu du mal déjà avec cette directive, puisqu'elle a été condamnée deux fois pour recours en manquement avant son introduction en droit français. Ensuite, c'est et les arrêts de la Cour de justice sont parfaitement clairs, hein, c'est une directive d'harmonisation totale, donc toute exception est exclue. Et d'ailleurs, je fais écho à ce que vient de dire Monsieur le Sénateur, l'Allemagne a été condamnée par la Cour de justice justement pour vouloir faire une exception avec le médicament. Donc cette directive s'applique du point de vue du droit et de la primauté du droit communautaire à tous les produits, de quelque nature qu'ils soient.
Alors... Donc, on verra un petit peu si tout cela va être remis en question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats au niveau européen qui sont aujourd'hui en cours. Les prochaines étapes, docteur Martine Pérez, est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui que les utilisateurs de la Dépakine sont mieux informés ? Est-ce que ça s'est amélioré ? Est-ce que toutes ces actions ont permis, je dirais, une information beaucoup plus clair, net, des utilisateurs de ce traitement.
Oui, a priori, aujourd'hui, je pense que plus personne n'ignore les effets de la Dépakine chez la femme enceinte. Mais vous savez, dans cette relation qu'il y a entre le patient et le laboratoire pharmaceutique, on oublie toujours de parler du médecin prescripteur. Or, les médecins prescripteurs, dans cette affaire, je pense que eux aussi, je veux pas accabler mes confrères, je comprends pas comment ils ont pu continuer à prescrire ces médicaments, sachant que dès 86, on savait qu'il y avait un risque de malformation du tube neural, et dès 2006, en tout cas, on savait qu'il y avait des troubles du neurodéveloppement possibles chez les enfants. Alors, certains disent, oui, mais chez certaines femmes, on n'avait pas le choix, on était obligé de prescrire de la Dépakine. Néanmoins, moi, je trouve que, et ce qui m'a choqué en étudiant ce dossier, c'est que les informations que l'on donne aux prescripteurs ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut lire sur la notice du médicament. Et ça, je trouve que c'est extrêmement problématique. Je trouve qu'en particulier, mes filles ont été enceintes récemment, chaque fois qu'elles prenaient un médicament, je regardais sur les notices, il n'y avait rien. Je trouve que, justement, concernant les médicaments pendant la grossesse et pendant l'allaitement, je trouve que les notices de médicaments devraient être aussi précises que les recommandations aux prescripteurs. Ça me semble évident et ça serait, à mon avis, une réforme très judicieuse et utile.
C'est un dossier pour vous, Monsieur Klinger.
Ah oui.
De revoir ces procédures d'information, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que il y a une cette information, elle vient des agences. Elle est délivrée au prescripteur. C'est l'agence qui en est responsable. Dans ce dossier, on s'est aperçu effectivement que l'agence expliquait que elle attendait les éléments de Sanofi. Sanofi disait on a prévenu l'agence. On a l'impression quand même dans toute cette communication aujourd'hui encore qu'il y a une bataille sur qui doit communiquer. Et ce que vous dites effectivement, Martine, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une communication vers les prescripteurs, il y a une communication au grand public, et tout cela se mélange un peu. Klinger.
Une des problématiques un peu dans l'indemnisation des victimes était aussi la recherche des anciens médecins qui avaient prescrit des médicaments et qui sont partis à la retraite et où on ne trouve plus de traces entre guillemets. Mais il est quand même très difficile d'imputer la responsabilité aux médecins. C'est un petit peu la part que l'ONIAM a pris à sa charge.
Oui. Oui, il ne s'agit pas d'imputer, mais c'est de comprendre les mécanismes qui ont fait que des femmes ont continué à prendre ce médicament, alors que toutes les études étaient disponibles depuis le début des années 2000 pour dire qu'il y avait un problème. Donc, et que le laboratoire, moi j'ai regardé toutes les notes, tous les RCP, toutes les recommandations aux prescripteurs, il dit, nous on a tout donné aux autorités de santé, c'est pas totalement faux non plus. Donc il faudrait, j'ai pas regardé dans le détail, vous savez que le diable est dans les détails, mais néanmoins, je pense que l'affaire est quand même, cette affaire de Dépakine est hyper complexe.
Très complexe, parce qu'effectivement, chacun campe aussi sur ses positions. Alors, on en est où aujourd'hui sur le plan judiciaire? Monsieur Klinger, on en est où aujourd'hui sur le plan judiciaire? Pas sur le plan judiciaire, sur le plan législatif, comment tout ça peut évoluer? Comment vous voyez les choses pour l'avenir?
Pour l'instant, sur le fonctionnement de l'ONIAM, c'est un peu le statu quo.
Sur le fonctionnement de l'ONIAM.
Alors, bon, le comité d'experts travaille bien. On ne va pas lui jeter la pierre non plus, parce que c'est vrai qu'il se voit très souvent. Il y a 3 réunions par semaine. Il est assez difficile de trouver, d'ailleurs, des professionnels, des médecins, des pédopsychiatres qui viennent deux, trois demi-journées dans la semaine, qui sont indemnisés 200 euros. C'est vrai qu'on a aussi une piste de réflexion sur la revalorisation des indemnités de ce comité d'experts pour qu'ils puissent un petit peu mieux travailler. Mais l'autre réflexion sur le dispositif en lui-même, qui est l'indemnisation des victimes d'un médicament, on peut avoir une réflexion un peu plus globale et ensuite se poser la question aussi sur la vaccination du Covid, si un jour on pourrait voir qu'il y avait des effets secondaires ou des choses comme ça. Donc, en tout cas, c'est un dossier que l'on suit attentivement. Budgétairement, les sommes allouées sont là et on est plutôt en sous-consommation de crédit. Et en fait,
parce qu'il y avait 77 millions, je crois, qui étaient prévus, hein, c'est cela?
Tout à fait, oui.
Et aujourd'hui, on en est à 16 ou 18 millions.
Parce que le plan d'avancement de l'étude des dossiers est plus long que ce qui avait été un peu estimé, oui.
Voilà, donc il faut effectivement peut-être aller plus vite pour les victimes. Christophe Hénin, quelles sont aujourd'hui, quelle est la situation sur le plan judiciaire? Il y a des actions en cours, il y a des recours, il y a des appels.
Il y a des actions à tous les niveaux, hein. Il y a l'action de groupe, mais qui va suivre son cours sur un temps long, hein, puisque les victimes du produit peuvent se déclarer pour les 5 ans qui viennent. Donc on voit bien que la procédure sera rallongée d'autant. Les affaires au civil sont en appel ou sont arrivés à la Cour de cassation mais renvoyés en appel. Donc tout ça est effectivement un peu long. Ce qu'on peut peut-être, un optimisme quand même, c'est que l'action de groupe aujourd'hui est tout à fait insuffisante, qu'une proposition de loi a été déposée le 15 décembre dernier pour élargir toutes les conditions de recevabilité, mais surtout pour permettre à toutes les victimes d'avoir une réparation intégrale de leurs dommages, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, la réparation est limitée aux dommages corporels. Et des dommages, il y en a beaucoup plus que ça dans ce type de situation.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe Hénin. Merci, docteur Martine Pérez. Merci, monsieur le sénateur Klinger, pour ces éclairages. Ça nous permet de mieux comprendre ce dossier qui est donc encore loin d'être terminé. Voilà, le prochain épisode de ce podcast, dans quelques semaines, il sera consacré à la crise des opioïdes aux États-Unis. Merci de votre fidélité.